Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre du cours, qui est un chapitre pas très drôle, puisqu'il s'agit de la question du mal et du péché. Voilà, je vais traiter ça à partir de ce que je sais, sachant que c'est un thème qui est vraiment... sur lequel tout le monde, pratiquement, a réfléchi, tant c'est quelque chose qui heurte existentiellement. Voilà. Alors, nous le savons, le récit de la création se termine mal, précisément par le mal qui est introduit en son sein. Ce récit ne parle d'ailleurs ni de la faute ni du péché, mais seulement de désobéissance. La réflexion sur l'homme, puisqu'elle parle de lui tel qu'il est dans son état actuel, a affaire avec l'homme marqué par le péché et par le mal, c'est-à-dire le mal commis et le mal que l'on subit. Notre réflexion ne peut ignorer le juste souffrant, dont la figure biblique par excellence est Job, ou bien encore les horreurs que les hommes s'infligent les uns aux autres, la barbarie des camps et la désolation d'Auschwitz. Cette réflexion est aussi confrontée à la finitude humaine, c'est-à-dire au savoir que nous sommes mortels, que je suis mortel. Cependant, le mal coexiste avec l'expérience du bien et du juste. À la barbarie nazie répond le courage et l'humanité de ceux qui sont appelés par le Talmud « juste parmi les nations ». L'expression a été reprise par le gouvernement israélien, la Knesset, en 1953, en même temps qu'elle créait le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, consacré aux victimes de la Shoah, elle décida d'honorer les justes parmi les nations qui ont mis leur vie en danger pour sauver les Juifs. L'homme se trouve donc dans une situation de paradoxe, de contradiction, de porte-à-faux. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas l'état premier de la création, mais un état qu'on appelle post-lapsaire, c'est-à-dire après le péché. Le péché, c'est le nom religieux, théologique, donné à l'expérience du mal. Si le mal heurte autant, c'est précisément parce qu'il va à l'encontre d'un ordre attendu, qu'il est un scandale. Là où on s'attend à trouver une norme, voire une évidence, on trouve une infraction et on est mis face à une absurdité morale et existentielle. Le mal, c'est cette infraction même de l'ordre et de l'harmonie première. Il est par nature disruptif. Alors pour éclairer ce que je dis, je vais vous lire un passage d'un texte que j'aime énormément, qui est d'Albert Cohen, « Ô vous, frères humains », où un petit garçon est très tôt, très jeune, confronté à l'expérience d'un mal, d'une absurdité, d'un scandale. Il y a beaucoup d'autres textes dans la littérature qui narrent ça. Je pense à Primo Levi, je pense à Charlotte Delbeau et à plein d'autres. J'en ai choisi un, mais voilà. En ce 16e jour du mois d'août, à 3h05 de l'après-midi, sortant du lycée où j'étais allée suivre un cours de vacances pour cancre en arithmétique, je vis un attroupement. À l'affût de m'intéresser et de jouir de la vie, de ma vie qui venait de commencer, je m'approchais. C'était un camelot qui, devant sa table pliante, démontrait avec feu les mérites de son détacheur universel. Fort animé et me forgeant déjà mille félicités de connaissances nouvelles, je me faufilais au premier rang pour mieux entendre et admirer le blond camelot aux fines moustaches. J'étais très fort en admiration en ce temps de mon enfance. Oh, comme j'étais heureux d'écouter ce séducteur, de rire avec les badauds, de participer, d'en être. À chaque plaisanterie du cher camelot, si spirituel, je regardais mes voisins pour rencontrer leurs yeux, pour me réjouir avec eux, pour communier. Oh, comme il parlait bien, et comme je l'admirais, et combien le merveilleux langage français était plaisant au petit étranger débarqué à 5 ans de son île grecque et qui parlait encore si mal. Extasié, physiquement charmé, j'écoutais l'enchanteur. Je le contemplais avec foi, une foi de petit chien. Je croyais en lui et je l'aimais. Ainsi était-ce ce petit crétin aux boucles noires, aux longs cils recourbés. Quand, avec son bâton de miracle, le magicien faisait disparaître une tache, je regardais de nouveau mes voisins pour m'assurer qu'ils appréciaient, pour savourer leur admiration, pour être en union d'émerveillement. J'étais heureux, je souriais au camelot, j'étais fier de lui, fier de sa compétence, fier de son accent parisien, et je l'aimais. J'avais 3 francs dans ma poche, cadeau de ma mère en ce jour anniversaire, et je décidai d'en consacrer la moitié à l'achat de 3 bâtons de détacheur. Ainsi, le camelot m'estimerait, me trouverait intéressant, et je pourrais rester longtemps à l'écouter, du droit d'un client sérieux. Et puis maman serait si contente, jamais plus de tâches, le cœur battant, tout ému de l'important achat qui allait me valoir la considération des badauds et l'amitié du camelot, je mis la main dans la poche de mon costume marin pour en sortir la grande somme, et j'aspirais largement pour avoir le courage de m'avancer et de réclamer les 3 bâtons. Mais alors, rencontrant mon sourire tendre de 10 ans, sourire d'amour, le camelot s'arrêta de discourir et de frotter, scruta silencieusement mon visage, sourit à son tour, et j'eus peur. Son sourire venait de découvrir 2 longues canines, et un paquet de sang massivement afflua sous ma poitrine, à la hauteur du sternum, avec le choc d'un coup contre ma gorge. Son regard bleu pâle et son index tendu qui me désignaient, je transpirais, et de panique, j'humectais mes lèvres. « Toi, tu es un youpin, hein ?» me dit le blond camelot aux fines moustaches que j'étais allé écouter avec foi et tendresse à la sortie du lycée. « Tu es un sale youpin, hein ?»« Je vois ça à ta gueule. Tu manges pas de cochon, hein ?»« Vu que les cochons se mangent pas entre eux, tu es avare, hein ?»« Je vois ça à ta gueule. Tu bouffes des louis d'or, hein ?»« Tu aimes mieux ça que les bonbons, hein ?»« Tu es encore un français à la manque, hein ?»« Je vois ça à ta gueule. Tu es un sale juif, hein ?» Un sale juif, hein ? Ton père est de la finance internationale, hein ? Tu viens manger le pain des Français, hein ? Messieurs, dames, je vous présente un copain à Dreyfus, un petit youtre pur sang, garanti de la confrérie du sécateur, raccourci où il faut, je les reconnais du premier coup d'œil. J'ai l'œil américain, moi. Eh ben, nous, on n'aime pas les juifs par ici. C'est une sale race. C'est tous des espions vendus à l'Allemagne. Voyez Dreyfus. C'est tous des traîtres. C'est tous des salauds. Sont mauvais comme la gale, des sangsues du pauvre monde. Ça roule sur l'or et ça fume des gros cigares pendant que nous, on se met la ceinture. Pas vrai, messieurs, dames? Tu peux filer, on t'a assez vu. T'es pas de chez toi, ici. C'est pas ton pays, ici. Tu as rien à faire chez nous. Allez, file, débarrasse voir le plancher. Va voir un peu à Jérusalem si j'y suis. » Il errait, le petit enfant, et il ne comprenait pas. Quoi ? N'était-il pas venu avec tendresse, avec un sourire fleuri, pour écouter le beau parler du camelot, le gentil langage français qu'il aimait tant et que de tout son cœur il apprenait, lui, débarqué depuis 5 ans de son île grecque ? Avec confiance, il s'était approché de la table pliante pour se réjouir des plaisanteries du camelot et gentiment rire et approuver et participer et s'instruire et mieux apprendre cette chère langue devenue sienne et amicalement se mêler à la petite foule ronde et fraternellement en être. Il errait et il ne comprenait pas. Que vous avez-il fait, dites, vous qui l'avez chassé, vous tous qui avez rigolé du petit qui avait cru pouvoir s'approcher de la table pour communier avec vous et être des vôtres. Quel mal vous avait-il fait, ce beau petit garçon? Que vous avait-il fait, ce naïf un peu féminin? Est-ce un tel péché que d'être né, que de naître? Ô vous, les copains de l'amour du prochain, vous qui avez tant savouré la confrérie du sécateur et le raccourci où il faut, que vous avez fait, cet innocent? Ce petit émerveillé, que vous avait-il fait pour que vous soyez méchant, pour que vous lui donniez, en guise de joyeux anniversaire et comme cadeau de fête en ce jour de ses 6 ans, cette haineuse rigolade? Ce récit est le récit d'une expérience de la gratuité du mal qui s'abat sur le totalement innocent. C'est ce mal-ci qui heurte, qui blesse, qui porte au désespoir et qui anéantit. Le mal, c'est ce qui reste en dehors de toute justification rationnelle. Il est par excellence ce qui résiste à la raison. Aucune réflexion philosophique ne parvient à une explication satisfaisante de cette faille traversant l'existence humaine. Il faut examiner alors ce que la réflexion chrétienne, qui ne se situe pas dans l'horizontale perspective rationnelle, mais dans la verticale perspective du salut, nous en dit. Alors, grand 1, la révélation biblique du péché. Voici ce que dit Bernard Cesboué dans son livre « L'homme merveille de Dieu » à la page 163. Ce serait une tragique erreur de penser que la foi chrétienne nous révèle avant tout le péché. Pire, qu'elle nous demande de croire au péché. Elle nous demande de croire au salut et à la libération de péché. S'il faut bien évidemment tenter de le comprendre, il faut toujours avoir à l'esprit la perspective du salut, sans quoi on tombe dans le désespoir. Que nous dit finalement la fin du deuxième récit de la Genèse ? Il faut d'abord remarquer que le serpent est présent dans un monde dont on vient juste de dire qu'il était bon. Le mal précède donc la faute de l'homme. Le mal, c'est l'adversaire, le tentateur, le diviseur, que l'on appelle le malin ou le Satan. L'homme n'est pas la première créature spirituelle à s'être détournée de Dieu. La première parole du serpent est une parole de tentation. Il rend le fruit défendu en fruit désirable. Dieu, comme le dit Cesboué, n'avait ordonné qu'une exception. Le serpent transforme cette exception en interdit. Ce n'est plus le Dieu qui donne, mais celui qui empêche et qui refuse. La femme, en rappelant l'interdit, vous n'y toucherez pas, mais l'interdit au centre de tout. Le venin du serpent l'a déjà pénétré. Serpent renchérit, insistant sur la jalousie de Dieu. Être comme des dieux, dit-il. C'est là symbolique de la scène et limpide, nous dit Cesboué. Le premier péché de l'humanité sera un acte d'incroyance mis au service d'une ambition, celle de vouloir ravir par ses propres forces ce qui ne peut être qu'un don gratuit de Dieu, péché d'ambition absolue, de jalousie aussi. Fin de citation. À l'extrême opposé, nous aurons le Christ qui se dépouille de sa condition divine pour revêtir le manteau de notre humanité. Le péché originel est péché d'orgueil. C'est le refus d'accepter le statut d'être créé, donc limité, fini. Le péché, c'est le refus de la finitude. Tout le drame se déroule autour de l'image centrale du fruit défendu, celui de la connaissance du bien et du mal. Cette connaissance peut d'abord être entendue au sens d'une connaissance expérimentale du bien et du mal. Le bien, état originel de l'homme, ne peut être expérimentalement connu que par comparaison avec le mal. Auparavant, l'état était celui d'une innocence, c'est-à-dire d'une absence de connaissance. Mais aussi, on peut entendre cette connaissance en termes juridiques. La connaissance, ici, est le droit de statuer sur les sujets en cause. La défense formulée porte alors sur le privilège d'apprécier souverainement ce qui est bien et ce qui est mal. Il est interdit à l'homme d'ériger sa propre morale à l'encontre de celle de Dieu. Cela revient à établir sa propre loi au mépris de celle de Dieu, à s'autonomiser du divin, à se prendre soi-même pour Dieu. L'homme devient idolâtre de lui-même, autolâtre. Cette autolâtrie porte en elle son châtiment. L'humanité, ainsi séparée de Dieu, perd l'amitié divine et avec elle les privilèges accordés à son innocence. Cette coupure avec Dieu fait déchoir l'homme de son statut premier et des avantages attenants, ce que la théologie appelle les dons préternaturels, en dehors de la nature. Ce sont les quatre faveurs données à Adam et Ève comme conséquence de la faveur de la grâce naturelle de la création. En perdant la grâce première, la grâce de la création, ils ont aussi perdu ces dons, qui sont l'impassibilité, ils ignoraient la souffrance, de quelque ordre que ce fût, l'immortalité, ils ne devaient pas mourir, la mort est entrée dans le monde par le péché, la science, Créés à l'âge adulte, ils avaient reçu directement de Dieu cette science que nous apprenons de notre éducation pour vivre. Et l'intégrité, c'est-à-dire la bonne ordonnance des facultés d'Adam qui faisait qu'il n'était pas soumis à la concupiscence. La concupiscence, c'est l'attirance de l'homme pour les biens terrestres, impliquant un dérèglement des sens et de la raison. Et il y a trois concupiscences, de la chair, de l'esprit, des yeux. Le corps obéissait sans effort aux passions, les passions à la volonté et la volonté à l'intelligence. Il s'agit du plus beau des dons que l'on peut retrouver avec la grâce. Cela explique que face à Dieu, d'abord, ils sont honteux de leur nudité, de leur faute et de leur misère. Alors que dans le jardin d'Éden, la nudité marque une situation d'estime réciproque entre Adam et Ève, le péché introduit la pudeur et la honte de la nudité. Le port du vêtement ne révèle pas seulement un sentiment d'ordre sexuel ou moral. La séparation de Dieu est aussi séparation des hommes entre eux. Dieu n'est plus l'ami, mais devient juge. Ensuite, les hommes expérimentent le mal. En premier lieu, la mort, devenue angoissante et douloureuse, puis la douleur, la souffrance. Ce récit est celui que l'on nomme « péché des origines » ou « péché originant »,« peccatum originans » en latin, c'est-à-dire le commencement du péché. À titre de commencement, il appartient aussi à l'ordre du mythe et raconte un événement primordial, fondateur, expliquant la présence du mal dans un monde où le péché originé, peccatum originatum, est présent. Il lui sert de principe. C'est bien ce que nous rappelle saint Paul en Romains 5, 12, 15. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes, situation dans laquelle tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, et bien que le péché ne puisse être sanctionné quand il n'y a pas de loi, pourtant, d'Adam à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression identique à celle d'Adam, figure de qui devait venir. Tous les hommes ont péché en Adam. Adam est un homme générique. Et c'est cette préexistence du péché que nous constatons. À savoir que dès qu'un homme naît, il expérimente le mal qui le précède. Donc, grand 2, maintenant, on va essayer d'expliquer avec Gaudium et Spes, cette présence du péché. Lisons le texte de Gaudium et Spes. Le péché, paragraphe 13. Établi par Dieu dans un état de justice, l'homme, séduit par le malin, dès le début de l'histoire, a abusé de sa liberté en se dressant contre Dieu et en désirant parvenir à sa fin hors de Dieu. Ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu gloire comme à un Dieu, mais leur cœur inintelligent s'est enténébré. Et ils ont servi la créature de préférence au Créateur. Ce que la révélation divine nous découvre ainsi, notre propre expérience le confirme. Car l'homme, s'il regarde au-dedans de son cœur, se découvre enclin aussi au mal, submergé de multiples maux qui ne peuvent provenir de son Créateur qui est bon. Refusant souvent de reconnaître Dieu comme son principe, l'homme a, par le fait même, briser l'ordre qui l'orientait à sa fin dernière, et en même temps, il a rompu toute harmonie, soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux autres hommes et à toute la création. C'est donc en lui-même que l'homme est divisé. Voici que toute la vie des hommes, individuelle et collective, se manifeste comme une lutte. Combien dramatique entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Bien plus, voici que l'homme se découvre incapable par lui-même de vaincre effectivement les assauts du mal, et ainsi chacun se sent comme chargé de chaînes. Mais le Seigneur en personne est venu pour restaurer l'homme dans sa liberté et sa force, le rénovant intérieurement et jetant dehors le prince de ce monde, confère Jean 12, 31, qui le retenait dans l'esclavage du péché, Quant au péché, il amoindrit l'homme lui-même en l'empêchant d'atteindre sa plénitude. Dans la lumière de cette révélation, la sublimité de la vocation humaine, comme la profonde misère de l'homme, dont tous font l'expérience, trouvent leur signification ultime. Le monde post-lapsaire, c'est-à-dire qui suit le péché, est le seul que nous connaissons, mais il n'est pas le plus originaire. L'état d'innocence lui est antérieur, plus originaire, mais c'est un état, un lieu perdu. Le péché est d'abord de l'ordre du constatable. Nous prenons acte du mal, non seulement à l'extérieur de nous, mais en nous. Le péché se manifeste à l'extérieur de nous. Nous en subissons personnellement ses effets, dans l'injustice par exemple. Mais nous assistons à ses effets à l'échelle mondiale et collective. L'appât du gain favorise la moitié du monde en appauvrissant l'autre moitié. La convoitise du pouvoir maintient des peuples en esclavage et provoque la guerre, etc., etc. C'est en nous-mêmes aussi que nous trouvons sa présence. Gaudium et Spes parle bien d'une lutte, d'assaut, de chaîne. Dans le cœur de chaque homme, quotidiennement, un combat est mené, ou du moins devrait-il l'être, pour lutter contre les mauvaises inclinations, les penchants pervers, statufiés, avec le temps, en habitude. C'est le sens de ce que l'on appelle le combat spirituel, la lutte contre les tentations du malin, avec l'appel au secours de la grâce. Pardon. Encore une fois, il faut garder à l'esprit que le péché n'est pas le dernier mot de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de chaque homme. Le Christ, le Rédempteur, celui qui efface le péché du monde, est seul triomphant, non seulement parce que, par son sacrifice, il nous libère du péché, mais aussi parce qu'il est la voie de notre salut, c'est-à-dire de notre béatitude. C'est un point sur lequel, dans un autre chapitre, nous reviendrons amplement. Gaudium et Spes n'insiste donc pas tant sur le péché des origines que sur le péché originé, c'est-à-dire l'expérience que tout un chacun fait de sa propre misère. Le texte ne répond pas non plus à cette question. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde s'il avait la préscience du mal? Pourquoi autorise-t-il la souffrance de l'innocent, les exterminations, les guerres, les handicaps, les orphelins, etc.? La philosophie a tenté d'y répondre en formulant de multiples théodicées qui toutes ont pour objet de montrer que Dieu n'est pas la cause du mal et que tout mal n'existe qu'en vue d'un bien qui n'appert pas au premier regard et au premier abord. Cette réponse me semble totalement insatisfaisante parce qu'elle ne répond pas à l'expérience existentielle du mal. Le mal, en effet, c'est une épreuve psychologique, morale et spirituelle. Nous allons voir quelles justifications théologiques l'on peut donner à sa présence, mais elles aussi ne satisfont pas la personne éprouvée. En réalité, il y a un saut à faire, à oser faire, qui est celui de la foi en l'amour indéfectible de Dieu pour l'homme et pour nous. Alors, grand 3, liberté et péché. Petit 1, liberté fondamentale de l'homme. L'homme est créature. Son péché a été de vouloir être comme le Créateur. Être créature, cela signifie qu'il est par nature fini. Être fini, cela signifie qu'il n'a pas lui-même le pouvoir de créer, à l'instar de Dieu qui ne crée que du bien, et que ses actions sont soumises au bien qu'il ne créait pas. Mais Dieu n'aurait pas été bon s'il n'avait pas créé l'homme libre. Il aurait été alors un Dieu tyran, un Dieu despote, qui impose sans relation, qui n'institue pas de dialogue, mais seulement des ordres, des restrictions, des interdits. L'homme a donc été créé libre de sa réaction au projet de Dieu, c'est-à-dire capable de pécher, capable de se détourner de ce projet. À la question, Dieu n'aurait-il pas pu créer des êtres intelligents et libres, incapables de ne pas pécher dès l'origine? Saint Thomas répond « À aucune créature il n'est, ni il n'a été communiqué, de ne pas pouvoir pécher par condition naturelle. Il fut impossible que, en sauvegardant la liberté du libre arbitre, il soit donné à quelque créature que ce soit de ne pas pouvoir pécher selon sa condition naturelle. » car il y a là comme une contradiction impliquée. Parce que s'il y a un libre arbitre, il faut qu'il puisse en être cause de son adhésion ou de sa non-adhésion. Et s'il ne peut pécher, il ne peut être cause de sa non-adhésion. Il s'ensuit ainsi une contradiction. L'homme a été créé intelligent et libre. C'est pourquoi il est l'image de Dieu. Il pouvait faire un double usage de ses facultés, mener une vie de conversion et de louange, ou choisir la séparation et l'orgueil, ce que Sesbué appelle une structure de faillibilité. Mais envisager une création qui n'aurait pas fait de l'homme un homme libre serait envisager une création qui ne fait pas de l'homme un homme, mais une bête rivée à son instinct. C'est la raison pour laquelle la Boétie parle de servitude volontaire. Sa dénonciation n'est pas seulement politique, elle concerne aussi une attitude fondamentale de l'être humain qui préfère l'esclavage à la liberté, l'aliénation à l'autonomie, la soumission à l'indépendance et pour tout dire, l'esclavage du péché à la libération en Jésus-Christ, dont on se fera volontiers l'esclave par imitation et amour de sa personne si on comprend sa révélation. La liberté est la grandeur de l'homme, mais il en fait le pire de ses effrois parce qu'elle seule le confronte à sa vocation. C'est finalement assez simple, le mal ou le bien, le divin ou le démoniaque, moi ou lui. Le grand inquisiteur, le Christ lui-même, le dit en s'adressant à Ivan Karamazov dans Les Frères Karamazov. As-tu donc oublié que l'homme préfère la paix et même la mort à la liberté de discerner le bien et le mal. Il n'y a rien de plus séduisant pour l'homme que le libre arbitre, mais aussi rien de plus douloureux. Mais qui voudrait d'un homme privé de liberté? Alors, est-on encore en droit de reprocher à Dieu le mal qu'il laisse faire parce qu'il ne peut faire autrement que de laisser, libre sa créature? Vous voyez, là, on touche là à des questions qui sont immenses, qui sont abyssales et auxquelles, finalement, il n'y a pas de réponse, mais simplement un cheminement de foi. Et surtout, ce qui, à cet état-là du cours, reste sans explication, ce n'est pas tant le mal que je fais que le mal que je subis alors même que je suis innocent. Ce qui reste sans explication, c'est l'handicap à la naissance, c'est l'extermination de l'innocent, c'est la guerre, c'est tout ce que je subis alors qu'il me semble ne pas l'avoir mérité, alors que j'y suis pour rien. Je vous laisse méditer là-dessus un petit peu. Je vais passer au petit 2, l'explication augustinienne ou la focalisation occidentale sur le péché originel. Saint Paul puis Augustin sont ceux qui ont été thématisés et légués à la postérité la notion de péché originel ou péché des origines. Bien sûr, ils ne le pensent pas sans lien avec le salut apporté par le Christ. D'où une forme d'optimisme qui fait dire à saint Augustin, à la suite de son maître saint Ambroise, « Heureuse faute qu'il nous a fallu un tel rédempteur !» Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12-15, établit un parallèle antinomique entre deux personnes situées à deux extrêmes opposés. Adam, par qui le péché est entré dans le monde, le Christ, nouvel Adam, par qui le péché est enlevé du monde, par le sacrifice de la croix. D'un côté la faute, de l'autre la grâce. Au salut universel apporté par le Christ répond l'universalité de la faute contenue en Adam. L'Adam pécheur contient en lui tous les hommes pécheurs, c'est-à-dire tous les hommes qui, dès qu'ils naissent, sont marqués du péché des origines. Ce péché originel marque définitivement la liberté à sa racine, à savoir, ce n'est pas le libre arbitre ou la capacité de discernement et de choix entre le bien et le mal qui est affecté, mais la mise en pratique par la liberté. Je vois le bien, je l'approuve et je fais le mal, dit Médée sous la plume d'Ovide. Je ne fais pas le bien que je veux, tandis que je fais le mal que je ne veux pas, déplore saint Paul dans l'Épître aux Romains. Deux expressions célèbres de ce qu'on peut appeler la faiblesse de la volonté, ou l'acrasie, particulièrement thématisée par Aristote, contre Socrate et la thèse du Protagoras, « Nul n'est méchant volontairement ». Je vais m'arrêter là, parce qu'ensuite j'aimerais aborder dans un prochain audio le traitement augustinien du péché et du mal, qui est un traitement assez complet et qui forme en lui-même une totalité. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur ce qui vient d'être dit, sur le mal comme épreuve existentielle. J'espère vous avoir éclairé un petit peu et je vous souhaite une bonne continuation.